Cette semaine, on a eu de tout, de rien et surtout beaucoup, mais alors beaucoup d'attentes, hein. La Fed a joué la carte Powell, tiède, pas de changement de taux, pas de cap clair, juste des discours anesthésiants avec attendre répété comme un mantra chez un moine sous l'exomile. Trump, lui, continue de balancer sur Powell, dorénavant il le surnomme Too Late Powell, et rêve de le foutre dehors s'il ne baisse pas les taux, fissa. Le seul problème, c'est que ça sera pas aussi facile, on le sait, on en a déjà parlé. Mais le plus savoureux, c'est ce sommet Trump-Chine à Genève, comme si on pouvait régler une guerre commerciale à coups de fondu moitié-moitié. Personne n'a encore parlé, personne n'a encore signé, mais la photo sera jolie et ce sera sûrement le sujet du week-end. Ça et la circulation à Genève, parce que entre marathon et négociation mondiale, on n'est pas prêt de pouvoir battre le record de la traversée de la ville avec un Clash G63 AMG. Et puis dans tout ça, Warren Buffett a tiré sa révérence après 60 ans de capitalisme à l'ancienne, en laissant un empire, des montagnes de cash et une philosophie qu'on n'enseigne plus vraiment dans les écoles de finance. Au final, une semaine très bavarde avec des marchés à peine réveillés, sauf un, le Bitcoin, lui, il grimpe tranquillement pendant que les autres attendent toujours un signal, lequel, aucune idée, mais il est probable que Trump soit impliqué dedans. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 10 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On commence avec notre bon vieux Jérôme Powell qui a prononcé le mot attendre 27 fois dans sa conférence de presse. Oui, 27 fois. Et pour le coup, c'est raccord. La Fed a gardé les taux inchangés et Powell a passé le meeting et a expliqué qu'il fallait attendre. Attendre que la guerre commerciale se calme, attendre que l'inflation soit mieux comprise, attendre des données sur l'emploi, bref, on attend, mais sans dire ce qu'on attend vraiment, mais on attend. Et pendant que Powell temporise, Donald Trump lui met la pression sur Truth Social, le traitant de Too Late Powell, laissant planer la possibilité d'un éventuel licenciement de le retour, ce qui semble surtout être un fantasme journalistique pour le moment. Ambiance de fin de mandat, bien installée à la Fed en tous les cas, jusqu'en mai 2026, ça va être très très long. Le marché, lui, continue de parier sur 3 baisses de taux d'ici décembre, mais vu le merdier géopolitique actuel, autant demander à une girouette de faire des prévisions météo fiables pour le 14 décembre 2027. Côté tension sino-américaine, Genève est devenue le centre névralgique de la diplomatie improvisée mondiale. Trump a envoyé ses émissaires, Bessent et Greer, pour discuter avec les Chinois. Et surprise, Pékin a fait le déplacement avec sa garde rapprochée, dont le ministre de la Sécurité publique, histoire de bien montrer que les enjeux dépassent largement la taxe sur les friteuses et les voitures électriques. Au programme, des discussions sur les droits de douane avec une potentielle baisse de 80%, voire 34%, et si la Chine fait des efforts sur le fentanyl. Oui, le deal commercial passe dorénavant par la lutte contre les opioïdes, tout est logique, ne cherchez pas, c'est la logique de Trump, on comprendra sûrement plus tard. Ou pas, ou jamais. La Chine, de son côté, menace avec son quasi-monopole sur les terres rares. Tu veux du néodyme pour ta bagnole électrique? Bah, faudra être gentil. On les voit venir gros comme une maison. Donald Trump a entrouvert la porte à une baisse des tarifs douaniers sur la Chine de 145% à 80%. Et c'est une avancée symbolique à la veille des négociations à Genève. Officiellement, rien ne sera annoncé avant la fin des discussions, mais le ton a changé. Trump donne carte blanche à ses équipes. Le hic, à 80%, le commerce ne redémarre pas vraiment. Les analystes estiment que le seuil critique est sous les 60%. Pendant ce temps, les exportations chinoises vers les USA se sont effondrées de 21% en avril, mais Pékin compense avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Le plan côté US, ramener les tarifs vers 50-54%, voire 25% pour certains pays voisins. Wall Street, elle, frémit à l'idée d'une détente, car pour les géants comme Apple, Walmart, Tesla ou Nike, tout échec de ces discussions pourrait faire très mal à la marge et pendant ces temps, les premiers cargos avec 145% de taxes sont arrivés dans les ports américains. On se demande qui va acheter ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant ce temps, c'est God Save the Queen au UK. Le Royaume-Uni joue sa carte solo et annonce un deal commercial avec les États-Unis. Vous l'avez vu cette semaine. Rien de révolutionnaire, mais assez pour redonner un coup de fouet à la bourse de Londres. Et les secteurs auto, pharma et métaux trinquent à cette avancée pendant que la Banque d'Angleterre baisse ses taux
pour soutenir l'effort. Est-ce que ce deal va vraiment changer la donne? Pas vraiment, mais ça fait joli sur les communiqués de presse et ça donne au marché l'illusion qu'on avance, même si c'est à reculons, avec une jambe en mousse. Et puis cette semaine, c'est la page d'histoire qui s'est tournée. Warren Buffett a passé la main. À 94 ans, l'oracle d'Omaha quitte la direction opérationnelle de Berkshire Hathaway. C'est Greg Abel, son discret successeur canadien, qui prend le relais en janvier 2026. Buffett reste président, bien sûr, mais l'annonce a été faite dans le plus grand style buffettien, humilité, clarté et standing ovation de 2 minutes. Le bonhomme laisse derrière lui un rendement de quasiment 20% par an sur 60 ans, une stratégie basée sur la patience, l'éthique et un usage intelligent du flot des assurances. Bref, le capitalisme dans sa version la plus propre, ou presque. Le marché s'interroge maintenant, Greg Abel sera-t-il perpétué l'esprit Berkshire ? Pas sûr qu'il ait le même charisme ou les mêmes punchlines, mais l'édifice tient et avec plus de 347 milliards de cash en réserve, on peut dire que Buffett laisse les clés d'une Formule 1 plein d'essence avec le DRS ouvert. Côté marché suisse, la semaine a été molle. Le SMI a tourné autour des 12 100 points sans conviction. La macro suisse est en mode grisaille. Inflation stagnante, franc fort, prix du pétrole en baisse et même un risque de déflation selon le COF qu'il a annoncé cette semaine. Ajoutez à ça un marché du travail qui montre des signes de fatigue, des consommateurs moins confiants et tu obtiens une économie qui respire encore mais qui n'a clairement pas envie de courir le marathon de Genève ce week-end. Côté géopolitique, la Suisse essaye de gratter un accord avec les US, histoire de pas rester sur la touche. Pas sûr que ça aboutisse, mais au moins on fait semblant de jouer dans la cour des grands. Une chose est certaine, on ne sera pas embêté avec les exportations de notre production automobile. Et pendant que les indices jouent à cache-cache avec les nerfs des investisseurs, Bitcoin continue de grimper. Pourquoi ? Parce que quand tout le monde doute des banques centrales, des dettes, des gouvernements et même du sens de la vie économique, on se réfugie dans la spéculation ultime. Le Bitcoin, c'est devenu le baromètre de la défiance et cette semaine, il dit clairement « Je ne crois plus personne, donc je monte tout seul ». Cette semaine, on aura donc eu des annonces, des espoirs, des figures mythiques qui s'effacent et des réunions à Genève qui se préparent. Mais sur les marchés, pas grand-chose n'a bougé. Les indices font quasiment du surplace. Les discours se répètent et les investisseurs attendent désespérément un signal clair qui ne vient pas. Pour l'instant, la seule chose qui semble en forme, c'est l'incertitude. Et le Bitcoin, bien sûr, parce que dans ce monde flou, c'est peut-être le flou qui paye. Et on attaque donc les performances de la semaine. Donc comme je viens de vous le dire, le Bitcoin, oui, il prend 7,65% sur la semaine. Le pétrole reprend 4,68% après des peurs de récession en début de semaine dernière. L'or continue de remonter à 3,10% de performance sur la semaine. Et puis vous voyez autrement le reste, Shanghai plus 1,92% à l'aube des négociations, on attend quand même beaucoup. Le DAX qui comme d'habitude grappille encore un peu de terrain, plus 1,8%. Et puis alors derrière les semi-conducteurs qui sont en plein délire avec 1,58% sur la semaine. Et puis derrière vous voyez le Dow Jones moins 0,16%, le S&P moins 0,47%, le SMI, moins 1,55%. Merci Roche, on va y revenir tout à l'heure. Et le CAC 40 qui finit quasiment inchangé sur la semaine. En gros, une semaine, bof, bof, bof et bof. Sur les perfs du SMI, vous voyez que là aussi, il n'y a pas grand chose à dire. Logitech qui retrouve des couleurs après sa semaine de résultats. Rush qui se fait démonter, je vais y revenir tout à l'heure. Lonza qui a publié ses chiffres et qui est plutôt optimiste sur l'avenir, qui perd quand même 2,5%. On va y revenir aussi. Sonova qui a publié également. Vous avez quoi d'autre encore? Richemont qui perd 1%. Et puis, globalement, pas grand-chose. Ça s'arrête finalement sur les pharma. Donc, on va en reparler dans les vedettes de la semaine dans quelques instants. Et puis on notera aussi que Nestlé est toujours dans la mouise avec ses histoires d'eau de Perrier dans le Gard en France. Et puis Zurich qui a publié ses résultats, on va aborder le sujet encore une fois. Swisscom qui a également publié ses résultats, moins 0,73%. Et Geberit qui perd 0,70%, non, qui gagne 0,72% et qui ont aussi publié leurs résultats du trimestre. Alors après 2 ou 3 semaines de hausse quasiment discontinue sur le SMI, vous voyez qu'on s'affaiblit un petit peu, ça se ressent très très bien. On voit là qu'on a fait notre exagération et là on fait notre top à très court terme. Peut-être qu'on va aller chercher ce gap qu'on a laissé en direction des 11 650, on verra ça en début de semaine prochaine. Et bien évidemment que les discussions sur les droits de douane seront le centre du monde, mais pour l'instant c'est un petit peu mou du genou, donc à l'image de ce qu'on vient de voir au terme des performances, le SMI ne fait pas grand-chose, tourne autour des 12 100, finit la semaine à 12 087 et est en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, qui sera peut-être le niveau clé à surveiller ces prochains temps. Vous voyez que on a hésité entre en dessous et en dessous durant toute la semaine pour finaliser en dessous. À court terme, un indice plutôt faiblard, mais pas non plus de quoi paniquer plus que tant sur la Suisse dans l'immédiat. Comme vous le voyez sur les États-Unis, eh bien c'est pas forcément mieux que sur la Suisse. Pour l'instant, eh bien on s'emmerde, on va dire profondément sur les indices. Là, vous voyez qu'on oscille entre 5600 sur le S&P 500 et 5700, un mini range. On voit qu'on est un tout petit peu suracheté là aussi, donc on est un peu dans une phase de digestion. Il faut quand même bien comprendre que depuis le mois d'avril, au début du mois d'avril, on a récupéré tout ce chemin-là. Donc c'est normal qu'on fasse en tout cas une pause à haute altitude, soit pour essayer de reconstruire et casser finalement, repartir en direction des plus hauts historiques, soit d'hésiter. Autant vous dire, bien sûr, que dans l'immédiat, le juge de paix, c'est les tarifs douaniers. What a surprise, je suis un visionnaire, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Le Nasdaq, pareil, vous voyez, là on bute sur la moyenne mobile des 200 jours pour l'instant. Là aussi, on est en phase de surachat, donc là aussi on va hésiter. Là aussi, on a laissé un petit peu de place pour revenir en direction des 19500, donc affaire à suivre ces prochaines heures. La plupart des semi-conducteurs ont publié leurs résultats. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal et on a beaucoup d'espoir au niveau des tarifs douaniers. Malgré le fait que les indicateurs sont un peu surachetés, ben nous, on continue à être plutôt dans la tendance haussière. C'est un des seuls indices qui terminait en hausse cette semaine. C'est bien, on est toujours dans notre grand range qu'on a ici sur le SOX, donc ça, c'est plutôt rassurant. Évidemment que la grande réponse qu'on aura au niveau des semi-conducteurs, c'est Nvidia qui publie leurs résultats le 28 mai. Le DAX qui est au plus haut de tous les temps et qui ont un nouveau gouvernement en train de se mettre en place. Donc on attend avec impatience les milliards et les milliards et les milliards d'investissements qui vont mettre en activité ces prochains temps en Allemagne. Il n'y a pas grand chose à dire au niveau du graphique. Le marché est super puissant en ce moment. Vous voyez que on n'est pas de beaucoup en dessus, mais on est en dessus. On a laissé des trous un peu partout, donc ça c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Mais on est vraiment dans un marché qui est complètement emballé. Et effectivement, après l'élection du nouveau chancelier allemand, on attend beaucoup beaucoup de ces nouveaux plans d'investissement. Alors moi, la seule chose qui me fait un tout petit peu peur sur l'Allemagne, et je le dis ici sans qu'on voie mon visage parce que je suis caché derrière un chart, aujourd'hui j'ai un peu l'impression que on est en train d'anticiper beaucoup 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 de choses et que s'il y a la moindre déception au niveau de ces investissements dans l'armement et dans l'infrastructure, ça risque de faire un tout petit peu bizarre sur le DAX. Les Français qui étaient en plus absents le 8 mai, puis qu'ils ont tous fait le pont le vendredi 9 mai, donc autant vous dire qu'il n'y a pas eu grand-chose. D'ailleurs, ça se ressent, on est quasiment inchangé sur le CAC sur la semaine. On est au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, on est juste en train de se bagarrer avec la moyenne des 50 à suivre de nouveau. Là aussi, vous voyez, on est un peu suracheté. Donc voilà, on sent que la semaine prochaine sera vraiment très très importante. Et comme d'habitude, on va se dire qu'on attend une semaine super importante qui pourrait éventuellement peut-être tout changer. Et vous avez le pétrole sous les yeux. Donc on a fait notre double bottom sur le baril. Pour l'instant, malgré les nouvelles hausses de production de l'OPEP, eh bien le baril remonte. Les tensions géopolitiques font aussi que. Et puis on se dit que si jamais il y a un accord qui se signe ces prochains temps sur la Chine, eh bien forcément la réouverture des exports et des importations vont faire qu'on va demander plus de barils, plus de pétrole, plus d'essence, plus d'énergie. Donc résultat, ça pourrait repartir à la hausse. C'est un petit peu la réaction technique à très court terme sur le WTI. L'or qui, on va dire, qui consolide à haute altitude, hein, qui est en hausse sur la semaine, qui a récupéré un peu de son trou de la semaine dernière. De toute façon, pour l'or, tout le monde est archi convaincu qu'on va aller au-dessus des 3500. Donc là, on est dans ce range latéral pour l'instant. Donc plutôt acheteur sur les bas du range, plutôt vendeur sur les hauts du range, pour ceux qui veulent faire du trading. Sur le moyen long terme, effectivement, il y a une conviction assez inouïe qu'il n'y a pas d'autre direction à espérer sur l'or que la hausse en direction des 4000. Et comme beaucoup de choses, l'or fonctionne par milliers. Hein, donc chaque millier, eh bien, c'est un millier de plus accroché à la cocarde. Donc c'est 3000, 4000, après ce sera 5000. Bref, tout va bien du côté de l'or et on est plutôt serein. Le Bitcoin qui s'envole. Donc vous voyez que le prochain objectif du Bitcoin, c'est les plus hauts historiques. Donc on attend avec impatience les 108 000 $ sur le Bitcoin. Ça devrait être réglé lundi matin, avoir la tranche du graphique pour l'instant. En tous les cas, pour l'instant, on a un range qui se dessine. Hein. Attention à ce range-là. Si on casse ça, alors là, il n'y aura plus de limite. Enfin, pour l'instant, on est dans ce range. Donc, prochain objectif sur le Bitcoin, 108 000. Et puis, les niveaux de support se situent au niveau des 92 000 $. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça va plutôt pas mal du côté du Bitcoin. On attaque avec les vedettes de la semaine et on commence par SGS qui muscle son jeu au Canada. Le géant suisse de l'inspection a mis la main sur Streamline Control, une boîte canadienne spécialisée dans les systèmes de contrôle industriel et les techno-opérationnels. pas de montant dévoilé, grand classique, mais un message clair, SGS veut peser plus lourd en Amérique du Nord, notamment dans les énergies renouvelables, le pétrole, le gaz, les services publics et l'industrie. Résultat, 45 Canadiens qui vont débarquer chez SGS avec leur PowerPoint. Alors ceux qui pensaient que ça allait faire délirer le titre, eh ben faut pas rêver, c'est montouillé gentiment, mais vous voyez que là aussi, hein, c'est impressionnant la performance haussière que nous fait SGS depuis qu'ils ont déménagé à Azouk. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tous les cas, le titre n'arrête pas de monter de manière constante. Alors c'est pas l'euphorie, mais ça monte gentiment. Prochain objectif, eh ben retourner combler le gap qu'on a ici en direction des 88 francs suisses. Donc on pourrait aller chercher potentiellement la moyenne mobile des 200 jours à 90 francs suisses ces prochains temps. Chez Geberit, on tire la chasse sur les marges. Le géant du sanitaire a sorti des chiffres propres, mais pas étincelants pour le premier trimestre. Chiffre d'affaires en hausse de 4,9% à 878 millions. Mais bénéfice net en baisse de 1,6% à 187 millions. Pourquoi ? Ah, ils ont dû faire un petit cadeau fiscal à l'Allemagne sous forme de 14 millions à cause de la fermeture d'une usine. Côté bonne nouvelle, les ventes ont gonflé grâce à des nouveaux produits, un bel effet d'anticipation des grossistes avant la hausse des prix d'avril. L'Europe reste le gros business, mais le Moyen-Orient cartonne avec plus 11%, et même l'Amérique est en train de se réveiller. Mais côté rentabilité, c'est moins sexy, marge EBITDA qui glisse de 32,8% à 31,5%, Le patron, lui, reste zen. Stabilisation en vue en Europe, prudence en Chine, confiance vers le Golfe. Pas de guidance chiffré pour 2025, grand classique, mais un mois d'avril qui commence mieux que 2024. En résumé, c'est pas la folie, mais c'est pas la panique non plus. L'action, bah, elle a perdu 0,4% sur l'annonce, histoire de dire qu'on a entendu, mais qu'on s'en fout un tout petit peu. Là, tout de suite, le double top sur le graphique est beaucoup plus important à observer. Voilà, donc exemple scolaire. Top 1, top 2, donc top 1 et 2, ça fait double top. Donc ça veut dire que si on ne casse pas rapidement ce niveau-là qu'on va mettre au niveau des 590 francs suisses, grosso modo, eh bien on a un risque de revenir en bas de ce mouvement, donc en direction des 500 balles. Donc à surveiller ces prochains temps sur Geberit, là où on est aussi bien suracheté dans cette zone-là. Donc attention, en cas d'accélération, ce sera hyper bullish, parce que ça veut dire qu'on a nettoyé ce passage-là. En revanche, si ça n'est pas le cas, attention à une correction éventuelle. Swisscom a boosté ses chiffres grâce à l'acquisition de Vodafone Italia, plus 39,3% de chiffre d'affaires à 3,76 milliards, mais uniquement grâce au rachat. Sans l'effet d'acquisition, ça aurait été moins 1,2%. L'EBITDA progresse de 17,9%, mais baisse de 6,6% en proforma. En clair, plus gros, mais pas forcément plus rentable. Pour 2025, Swisscom vise 15 à 15,2 milliards de chiffre d'affaires, 5 milliards d'EBITDA et 3,2 milliards d'investissement. Et si tout roule, dividende en hausse prévu de 22 à 26 francs suisses par action. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toujours pas cette boîte, c'est incroyable. Vous voyez donc le graphique de Swisscom, ça se passe de commentaires, des chiffres qui ont bien fait peur au début, puis finalement on a bien récupéré le tout, et finalement on est retour à la case départ. Donc ça c'est juste l'interprétation, ce grand candlestick que vous voyez là, c'est juste l'interprétation des résultats. Oh là là, mon dieu, c'est pas terrible parce qu'il y a l'intégration de Vodafone. Ah bah non, finalement on s'en sort pas trop mal. Ouais, bah ils vont augmenter le dividende, ok, c'est cool, ouais. Pas grand-chose à dire sur le chart. Là, l'un dans l'autre, ça reste une boîte qui est super intéressante pour le dividende. Mais vous voyez que là, ça va un petit peu mieux et on pourrait espérer un retour en direction des 570. Mais franchement, qu'est-ce que c'est ennuyeux. C'est hallucinant. Zurich Assurance démarre l'année sur des bonnes bases, malgré quelques doutes. Le géant de l'assurance suisse annonce des primes en hausse de 5% à 13,3 milliards, tirés par des hausses tarifaires et de plus 18% dans l'assurance vie, grâce à un carton en Espagne. Mais les incendies de Los Angeles ont laissé quand même quelques traces. 200 millions de dollars de charges avant impôt, sans faire vaciller non plus la confiance de la direction, puisque le CFO se dit en confiance absolue celui pour atteindre les objectifs 2025-2027, mieux que la météo, plus 9% de bénéfices par action par année et des dividendes toujours bien dodus, on va dire, grâce à 19 milliards de cash visés sur 3 ans. le marché un peu moins enthousiaste. Le titre était un petit peu en baisse après la publication des chiffres, refroidi un peu par l'exposition US et un dollar qui est faible, bien sûr. En résumé, solide dans les chiffres, mais un tout petit peu fumant sur la perception. Vous voyez l'interprétation des résultats jeudi matin, bam, 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 ça baisse un petit peu. Pas grand-chose à dire au niveau du graphique pour l'instant. On surveillera les 540 de toute façon, parce que c'est la moyenne mobile des 200 jours. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu quelques corrections au niveau des recommandations des analystes qui se sont empressés de modifier un peu leur price target. Donc ça devrait bouger un petit peu autour de tout ça, et on verra comment on va digérer les résultats la semaine prochaine. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment. Petite déception, c'est qu'on n'est pas retourné chercher les plus hauts historiques à 620. Donc là, on est plutôt en train de se dire, est-ce que on n'est pas un peu trop cher, et puis que l'effondrement du dollar ne poserait pas un peu des problèmes. Mais de nouveau, en fonction de ce qui va se passer ces prochains jours au niveau des droits de douane, tout est possible. Adecco a limité la casse et ça suffit pour faire grimper le titre. Le géant du temporaire affiche un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% à 5,57 milliards et c'est un bénéfice net en chute de 20% à 60 millions. Oui, c'est moche. Mais c'est moins moche que prévu. Le cœur de métier recule surtout en France, mais l'Asie-Pacifique cartonne, l'ingénierie et le recrutement de cadres piquent du nez et la marge EBITDA tombe à 2,4%. Mais surprise, surprise, la perf est sauvée par un versement exceptionnel de 22 millions de la joint venture chinoise Fesco, alors que d'habitude c'est 5 millions. Sans ça, le consensus aurait été raté. La direction parle d'annonce de reprise, les analystes saluent la discipline sur les coûts et le marché achète l'histoire. Résultat, plus 11,7% pour l'action lors de la séance de jeudi. Comme quoi, parfois, moins pire, c'est suffisant. Que vous dire à propos du graphique ? Rien, ce machin, ça ressemble à rien, j'ai jamais rien compris à cette boîte non plus. On consolidait depuis longtemps autour des 20 balles, la situation moins pire l'a fait remonter, il faudra juste espérer que ça continue, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a le moindre trend qui se dessine. Parlons maintenant un petit peu de Roche, les marchés tiennent, mais Roche s'effondre, et pourtant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles autour de ça. Alors, pourquoi est-ce que Roche se fait démonter la semaine dernière ? Sur le papier, ils ont coché toutes les bonnes cases sur la semaine. Déjà, le géant suisse a concrétisé son accord avec Zealand Pharma pour un traitement prometteur contre l'obésité. Ça s'appelle le Petrelintide. Ouais, ça ressemble à un Pokémon, mais c'est du sérieux. Valeur du deal, 5,3 milliards de dollars, rien que ça. Et comme Roche ne fait jamais les choses à moitié, ils annoncent aussi un joli chèque de 282 millions de dollars pour une nouvelle base de production biopharmaceutique à Shanghai. Le but, c'est de produire localement le Vabysmo, un traitement pour les yeux, parce que même les Chinois veulent bien voir clair quand ils lisent leur contrat. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que débarque Vinay Prasad, le nouveau patron du Center for Biologic de la FDA, un mec brillant, respecté, mais aussi carrément allergique aux raccourcis réglementaires. Il est anti-fast-track, pro-protocole, lourd, et surtout pas du genre à filer une autorisation de mise sur le marché entre deux cafés à la machine. Résultat, les marchés flippent, le secteur flippe, car pour les labos comme Roche, mais aussi comme Sanofi, qui misent encore sur quelques gros dossiers dans la biotech et les thérapies géniques, eh bien ça veut dire potentiellement des délais, des reports et surtout du blabla administratif à rallonge. Vous ajoutez à ça la pression sectorielle post-Covid, une FDA qui se refait une virginité éthique et quelques incertitudes géopolitiques, et tu obtiens une belle semaine de mer pour Roche en bourse, malgré de vraies bonnes nouvelles. En conclusion, Roche bosse dur, Roche investit bien, Roche a des vrais projets, mais le marché n'aime pas les nouveaux chefs tatillons, surtout quand ils s'occupent de valider des pilules à plusieurs milliards. Moralité, Roche fait du bon boulot, mais la FDA a mis du piment dans la soupe et ça pique un petit peu trop sur la langue. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Alors, Acceleron investit 80 millions de dollars pour muscler sa filiale italienne OMT, des turbos, des usines et un petit moins 0,9% en bourse pour fêter ça. Avolta flambe après des rumeurs de rachat par CVC Capital Partners. Un article, un soupçon de M&A et paf, ça monte. Hurlicon plus 20% quasiment qui font grand ménage. Elle refourgue ses machines textiles à Ritter et se reconvertit officiellement en spécialiste du revêtement. Arista, le roi de la baguette industrielle, voit plus grand pour 2028 et promet plus de sous aux actionnaires, du pain, du beurre et des dividendes. Software One fusionne presque complètement avec Crayon. 91,6% des parts, encore un effort et on pourra refermer le couvercle avec le Norvégien. Doc Morris lève 200 millions de francs suisses. 3 actions nouvelles à 5,75 pour une ancienne. De quoi financer la croissance et rembourser une obligation à 95 millions de francs suisses. La souscription est du 13 au 21 mai. Règlement le 26 mai. Reste à voir si les investisseurs vont digérer la pilule. Léon Tech taille dans la hiérarchie, comité de direction réduit de 7 à 5 pour accélérer les décisions, moins de monde, plus de café pour les autres. Montana Aerospace décolle fort, plus 15,1% de vent, bénéfice net presque doublé, deux moteurs plein gaz. Valiant rame un peu, T1 positif, hypothèque à plat, mais un petit 3,2% de bénéfice net, c'est pas fou, mais c'est pas mort non plus. Sonova vend plus d'appareils auditifs, mais gagne moins. Le boss Kaldowski quitte le navire, mais on augmente quand même le dividende. Bruit sourd, avec un petit sifflement, mais pas de panique. Lonza reste confiant pour 2025, plus 5% de croissance attendue, marge à 25% visée, rien d'explosif, mais la machine tourne. Et puis Georg Fischer rachète l'allemand VAG Group, spécialiste des vannes pour l'eau, 200 millions de francs suisses pour que ça coule de source. En conclusion, la saison des résultats américains touche à sa fin, 90% du S&P 500 a déjà vidé son sac, mais quelques poids lourds comme Walmart, Alibaba ou Cisco ou encore Allianz peuvent encore faire quelques vagues. Côté macro, la semaine s'annonce chargée comme une mule, inflation US mardi, PIB UK jeudi, sans oublier Powell qui reprendra le micro sans doute pour dire qu'il attend de voir. Et puis vendredi, le Japon sort sa croissance pendant que les Américains nous diront s'ils ont encore confiance en l'avenir ou s'ils sont en train de stocker des boîtes de conserve et des six-packs de flotte dans leur cave. Et puis vous savez quoi? On va parler droit de douane avec le bilan du sommet de Genève de bleu. Bref, on range pas encore les cases parce que ça pourrait encore un peu secouer la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de commenter, de partager. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau Swiss Bliss parce que moi j'ai pris congé pour cause d'anniversaire. D'ailleurs, merci pour tous les messages sur la vidéo d'hier. Et là, je suis aussi certain que comme je suis pas là, le marché va encore se faire secouer et que je vais devoir sortir une vidéo en catastrophe avec des confettis dans les cheveux et une bouteille de champ à la main. Donc allez, en théorie, excellent week-end, à mercredi, profitez bien et à tout bientôt. Bye bye.